Bienvenue au Hackfest Weekly News de la semaine se terminant le 26 mai 2012.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du Hackfest Weekly News. Je suis Richer et je vais vous présenter mes nouvelles de la semaine avec la voix semi-enrouée. Donc, désolé pour ça, je devrais être capable de sortir le matériel quand même. Donc, pour commencer, j'ai deux nouvelles et demie. Donc, la première moitié de nouvelles qui est la continuité de ce que j'avais parlé la semaine dernière. C'était un logiciel qui est pour le jailbreak iOS 5.1.1. en mode Untethered. Un logiciel qui est sorti là-dessus, c'est Absinthe 2.0.1, qui est disponible pour Windows, Linux et Mac. Présentement, je suis en train de l'essayer. Et mon téléphone est en train de se mettre à jour présentement. Je n'ai pas fini encore. J'aurais aimé pouvoir valider si c'était correct. Et donc, pour l'instant, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça va dire après ça. Mais donc, pour l'instant, je n'ai pas terminé. Mais donc, on va voir par la suite, si ça va bien fonctionner. Mais ça semblerait être bien correct. Donc, on va le savoir dans quelques temps. Et donc, c'est tout pour ça. Pour la deuxième chose, il y a le logiciel, ou plutôt le malware, SpyEye, qui est un botnet, pour ceux qui ne savent pas, un botnet qui attaque précisément, qui cible les personnes, les sites bancaires en ligne. Donc, comme c'est là, dernièrement, il y a eu une mise à jour au niveau de ce botnet-là c'était un fichier qui s'appelle flashcamcontrol.dll qui permet de pouvoir aller modifier les paramètres spécifiques au niveau de Flash pour pouvoir prendre capture de la caméra et être capable de pouvoir, la caméra et le microphone aussi, c'est ça, il faut le spécifier, pour être capable de pouvoir enregistrer et filmer l'utilisateur. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il y a plusieurs sites bancaires qui demandent à avoir une reconnaissance faciale. Donc, à ce moment-là, et si la personne est capable d'avoir le visage de la personne et superposer ça en faisant passer ça pour une caméra, il y a moyen de pouvoir passer de la sécurité avec ça. Donc, c'est intéressant. Présentement, justement, c'était avec Kaspersky qui avait découvert ce petit truc-là qui avait été ajouté dernièrement au niveau de SpyEye. Donc, vous allez voir ça pour plus de détails. Et pour terminer, ma troisième nouvelle, Nmap 6 est sorti cette semaine. Donc, ça, c'est très intéressant. Une nouvelle version qui promet d'être très intéressante. Encore une fois, j'ai pas été capable de pouvoir l'essayer. C'était fou au travail. Donc, mais j'ai quand même pu regarder quelques petits trucs. Donc, on va faire le tour du... Vu que c'est la version 6, ils ont voulu faire un top 6 des nouveautés dans Nmap. Donc, c'est intéressant au niveau du site web de nmap.org. Donc, la première chose, c'est qu'il y a une grosse amélioration au niveau du scripting, le NSE, le Nmap Scripting Engine. Donc, ça, c'est une chose très intéressante pour pouvoir ajouter des scripts et faire des fonctionnalités supplémentaires. Il y a comme deuxième chose, il y a une meilleure vérification, un meilleur scan au niveau des ports web, donc une nouvelle détection par rapport à ça, beaucoup plus efficace. Comme troisième chose ici, il y a un complet support de IPv6, donc ça c'est une bonne chose, étant donné que normalement on devrait, Internet devrait arriver à être en IPv6 un jour, donc on va voir quand ça va arriver, mais donc c'est une bonne chose que ce soit tout supporté complètement, donc ça c'est intéressant. Et comme autre chose, ensuite, il y avait le nouvel outil qui est Nping, qui pourrait faire penser un peu à Hping. Donc ça, à ce moment-là, c'est un nouvel outil qui est ajouté et qui peut générer des paquets. Donc ça va être une chose à regarder qui me semble très intéressante. Comme cinquième option qui était mise à jour là-dessus, c'est ZenMap, qui est l'interface graphique, qui a été beaucoup plus améliorée. Et les résultats, pour pouvoir voir les résultats, ça a été ajouté. Il y a des petits trucs qui ont été ajoutés à ce niveau-là pour que ce soit encore plus beau. Donc, c'est le fun. Ça, c'est une belle chose. Et pour terminer, la sixième chose qui a été améliorée, les scans sont encore plus vite. Donc, à un moment donné, on va voir à quand les scans ne pourront plus être plus vite que ça. Mais dépendamment, quand on sait comment le configurer, ça peut aller quand même relativement vite. Mais il y a beaucoup d'améliorations au niveau de la consommation de bande passante. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, ça, c'est ce qui couvrait le Nmap. Donc, moi, c'est tout pour mes nouvelles de cette semaine. Je vous remercie et on se revoit la semaine prochaine. Merci, bye!
Bonjour, voici les nouvelles de Patrick pour cette semaine du 20 mai. On commence avec une grosse nouvelle qui a été réalisée par Anonymous encore une fois. Ils ont réussi à télécharger plus de 1,7 gigs de données du Bureau de justice des États-Unis, principalement des courriels du Bureau de justice considérés assez secrets. Donc, ça a été diffusé sur le web, mais toujours à peu près pour la même raison, là, la liberté de tous. On peut penser peut-être à une attaque basée sur du SQL injection, encore une fois. Si on continue toujours du côté d'Anonymous, pour une fois, ils ont fait une action que je trouve peut-être plus légitime, qui était déjà une opération qui existe par d'autres groupes organisés, si on peut dire, qui ont fait une opération pedo-hunt. Donc, ils sont allés sur les réseaux secrets, si on peut dire, les réseaux en arrière de Tor, donc qui se prénomme Darknet. Darknet, c'est un réseau anonyme. Ce réseau-là permet d'héberger des sites web de manière anonymement, dans le concept de Tor un peu. Et quand tu te promènes, ben, tu te promènes de manière anonyme aussi. Donc, il y avait des pédophiles qui diffusaient beaucoup d'informations, comme vous pouvez comprendre, assez dégueulasses. Ils ont réussi à traquer plusieurs sites de ces sites illégaux-là dans le réseau Darknet. Et à partir de là, ils ont réalisé les pseudos, les villes, les sites Internet, beaucoup de statistiques sur les personnes, donc qu'est-ce qu'ils aiment, à quelle école qu'ils vont, certains même leur vraie identité. Et ils ont dompé les informations au nom du FBI. Donc, ils ont renvoyé ça pour qu'ils puissent, FBI, les attaquer. Donc, Anonymous, se disant détester le FBI, les aime quand même pour ce genre de job-là. Principalement, les présumés pervers sont situés dans une dizaine de pays sur la planète. Donc, c'est quand même un gros coup et un coup quand même assez légitime en plus. Si on se déplace du côté de Québec, Anonymous frappe toujours. En fait, si vous avez vu dans les nouvelles, avec tout ce qui est sur la loi 78, on a eu beaucoup d'attaques, soit de déni de service contre les sites du gouvernement, donc une dizaine de sites du gouvernement, plus deux, trois du site politique libéral, qui ont été mis down avec du déni de service, là, comme Anonymous le fait souvent. Mais aussi, ils ont piraté deux ou trois sites web comme la ville d'Alma, le bureau de déontologie policière et la sécurité publique. Donc, principalement des attaques basées sur des vieux logiciels, des vieux CMS non à jour côté sécurité. Donc, ils ont modifié les pages web, mais ils ont carrément effectué des deface avec la phrase d'Anonymous ou simplement le masque. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir ici? Mais souvent, on se dit qu'Anonymous, c'est pas quelque chose qui peut nous attaquer vraiment au Québec. Tu sais, c'est beaucoup orienté vers des grosses entreprises multinationales ou des gros gouvernements qui font des lois intenses. Mais on peut dire finalement que peu importe où ce qu'on habite, on peut être vraiment... on n'est pas vraiment en fait à l'abri des groupes. Finalement, mon dernier sujet, c'est un cas qui remonte à 2011, les Bitcoin. Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle qui a été inventée au MIT, dans le fond, qui est basée sur un algorithme mathématique. Cet algorithme de maths-là génère des hashes et il faut faire des calculs mathématiques pour trouver un algorithme quelconque. Et quand l'algorithme est résolu, on gagne 50 bitcoins. À chaque fois qu'on trouve un bitcoin, le prochain, la difficulté augmente jusqu'à temps qu'il y ait 23 millions de bitcoins de trouver. Chaque bitcoin a une valeur réelle dans la vraie vie. Donc, il y a du monde qui ont décidé de créer comme des TSX, des bourses pour le bitcoin. Ils ont aussi créé des banques, etc. Voilà un an, au mois de juin 2011, il y a eu un premier gros hack qui a eu lieu concernant les bitcoins, qui était un des TSX qui s'appelait Mt. Gox, qui avait perdu sa base de données, plus de 500 000 bitcoins qui avaient été volés. Donc, il y avait eu un bug de SQL injection qui ont permis de se connecter sur 500 accounts. Et ils ont transféré plus de 25 000 bitcoins en dehors de ces accounts-là. Et pour le tout, ça valait environ 8 millions le vol qui a été fait dans ce temps-là. À partir de là, il y a tous les gens de bourses et banques qui ont décidé de fermer leur système pendant une semaine pour les sécuriser. Ça avait crashé le bitcoin. Dans ce temps-là, il valait une valeur d'environ 30 à 50 $ US pour un bitcoin, et un peu après la crise, ça a descendu là, en bas de 2-3 $. Donc ça, c'était l'année passée. Au début 2012, on a eu la même chose qui s'est produite sur Linode. Il y a eu plus de 46 000 bitcoins qui ont été volés, donc environ 200 000 $. Fait qu'on voit que bitcoin, la valeur avait diminué. Et finalement, cette semaine, en fait, plus de 18 000 bitcoins qui ont encore été volés, mais dans une banque de bitcoin qui s'appelait Bitcoinica, qui est dans le fond un endroit d'exchange un peu. C'est le concept d'un TSX, mais format banque en même temps. Mais vu qu'il n'y a aucune législation dans les bitcoins, n'importe qui peut faire ce qu'il veut, créer des services comme il désire. Donc, c'est un service qui a été créé par un kid de 17 ans, des alentours de l'Asie, avec son nom. Et il n'avait pas vraiment pensé à tout ce qui était SQL injection et sécurité. Donc, il s'est fait voler pour plus de 90 000 $ US en Bitcoin. Donc, on peut comprendre que même si c'est des Bitcoins, donc c'est pas vraiment réel, mais ça a une certaine valeur. Puis, faut quand même faire attention qu'on utilise ces genres de systèmes-là. Le Bitcoin, par défaut, toutes les wallets ne sont pas encryptées. C'est vraiment un fichier en clear text sur nos postes. Quand un kid de 17 ans fait une banque pour gérer des millions en Bitcoin, et ben, il fait ça dans son fonds tout seul sans vraiment penser à la sécurité, mais on peut perdre quand même beaucoup d'argent en se lançant là-dedans. Donc sinon, shameless plug plutôt. On a eu notre Hackerspace cette semaine, le 24, avec une conférence sur tout ce qui était hard spoofing et autres. Les inscriptions sont maintenant en ligne à partir d'hier, le 25. En fait, la publicité a été faite hier. Ça peut faire quelques semaines qu'on peut s'inscrire. Donc, vous pouvez aller vous inscrire en ligne pour le Hackfest 2010. Le nouveau concept cette année, c'est qu'il y a des coupons rabais de cachés un peu partout dans le site web. Ces coupons rabais-là vous permettent d'épargner entre 5 et 20 $. Ils sont cachés de manière avec des manières de sécurité hacking un peu là, assez simples. C'est assez évident, c'est des techniques de dissimulation que vous devez trouver dans le site web ou nos sites web à nous. Donc en gros, pas trop compliqué, mais juste assez pour vous donner un petit challenge. Il y a déjà des personnes qui ont trouvé et résolu des petits challenges. Donc on vous invite à aller vous inscrire pour le Hackfest du 3 novembre qui aura lieu à Sainte-Foy, à l'Hôtel Plaza. Merci à tous.
Bonjour, mon nom est Nicolas Fortin. Voici les nouvelles qui m'ont marqué durant la dernière semaine. Premièrement, une sortie de Nmap 6 qui ajoute plein de fonctionnalités supplémentaires, dont le IPv6, améliore son engin de scripting, permet de scanner sur le web maintenant en plus, sur le web, d'applications web. Donc, l'outil est encore plus complet qu'il était anciennement, donc toujours plus intéressant, toujours un outil très primordial à avoir dans notre boîte à outils. WHMCS s'est fait avoir par du social engineering de façon très basique, dans le sens où ils ont réussi à obtenir les mots de passe par conviction des gens. WHMCS, c'est un logiciel de gestion de clients et de billing. Le SAN a sorti un article très intéressant sur le deux facteurs qui mentionne que parfois les facteurs ont tendance à se fondre un dans l'autre. Donc, par exemple, la mention qu'il mentionnait, c'est le SecureID qui est un deuxième facteur, étant donné qu'on a un objet qu'on possède, plus le NIP qui est un objet, une chose que l'on connaît. Souvent, les gens vont mettre un sur l'autre, donc inscrire leur NIP sur leur jeton SecureID. Donc, ce fait transforme le SecureID en un seul facteur. Ça ne réduit pas la qualité totale de l'authentification, mais en réduit quand même une certaine partie, ce n'est pas tout à fait un deuxième facteur. Flashback, il y avait des rumeurs qui disaient que il tirait à peu près 10 000 $ de revenus par jour de ce verre-là. Il s'avère que finalement, ce n'est pas le cas. Il y a des analyses, en fait, les gens qui devaient payer ne l'ont jamais payé, donc le fraudeur n'a jamais fait l'argent qu'il était supposément en fait, donc il n'a pas fait une scène. Ce qui fait que c'est un coup d'épée dans l'eau pour lui, ce qui était très heureux pour les gens comme nous. VeraCode a sorti un guide à l'intention des CISO sur l'application sécurité des applications. Naturellement, comme on sait pour le CISO, ce n'est pas nécessairement très en profondeur, mais quand même un bon survol de la sécurité applicative, ce qui est très intéressant et permet de sensibiliser ces gens-là. Dans la même veine, Microsoft a sorti cette semaine la version 5.2 de son SDLC, son cycle de développement sécuritaire. C'est pas une version majeure de modification, mais quand même améliore le processus, met à jour par rapport aux menaces et ainsi de suite, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur chez Microsoft. Si vous avez l'intention de mettre ça en pratique, puis vous avez commencé de zéro, ne pas l'appliquer au complet parce que ça peut être un peu brutal sur le degré de profondeur que ça peut changer. Mais c'est quand même un bon outil de départ qu'on peut adapter à chacune des entreprises. VMware a sorti un avertissement de sécurité sur son outil VMA, qui est un outil de gestion permet de faciliter la gestion de ces outils. Cette vulnérabilité-là est une chose d'escalation de privilèges, donc un utilisateur normal pourrait réussir à obtenir des super pouvoirs, des super utilisateurs. Cette semaine, il y a un feedback par rapport à la nomination du nouveau boss de la cybersécurité au niveau de la Maison-Blanche. Certains gens commencent à s'inquiéter du fait que cette personne arrive du service de renseignement américain. Donc, il y a possiblement un agenda qui serait attaché à ça. C'est ce qui serait ça à voir et voir les législations qui vont se suivre par rapport à ça. Finalement, Linux 3.4 est maintenant disponible avec plusieurs ajouts de sécurité à l'intérieur qui sont très intéressants, en plus des ajouts de fonctionnalités et d'améliorations naturelles du logiciel, du kernel lui-même. Donc, ça fait le tour de mes nouvelles pour cette semaine. Merci, bonne journée.